sans rendez-vous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Pierre-Alexis Geoffroy, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors vous êtes psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à l'APHP. Et donc avec vous, docteur, aujourd'hui on va parler de la dépression. Alors en général, pas forcément en lien avec le contexte actuel, même si on en parlera aussi un petit peu. D'abord on va reprendre du début. La dépression, c'est quoi? C'est une maladie du cerveau? Qu'est-ce qui se passe peut-être physiologiquement?
Alors absolument, c'est une maladie du cerveau. On sait qu'il y a certaines zones dans le cerveau qui sont touchées sur le plan anatomique, c'est-à-dire dans leur structure, mais aussi dans leur fonctionnement. On parle du thalamus, on parle de l'hippocampe, dont on connaît pour la fonction notamment sur la mémoire, la concentration, mais aussi les lobes frontaux, cortex préfrontal, cortex singulaire antérieur. Et donc ce sont des zones qui, on va dire, en quelque sorte, hypofonctionnent au cours d'une dépression et sont responsables d'une tristesse de l'humeur avec un ralentissement des pensées, des comportements, des troubles de ce qu'on appelle des fonctions instinctuelles. Et c'est par exemple le sommeil, l'alimentation, la sexualité et une grande fatigue.
Est-ce qu'on sait combien de Français souffrent de dépression ?
Oui, alors on sait à peu près, donc sur une année, la prévalence de la dépression, c'est 10%.
Ah oui, c'est énorme.
Voilà, chez les adultes, donc c'est quand même très élevé. Et si on parle de prévalence en vie entière, une personne sur cinq fera un jour dans sa vie une dépression.
Là encore, c'est très important. Hein. C'est une maladie fréquente, donc on peut dire
très
ça. Est-ce qu'il y en a autant dans les pays dits occidentaux? Est-ce qu'il y en a partout d'ailleurs dans tous les pays du monde? Ou c'est quelque chose qui est typique un peu de nos pays occidentalisés, industrialisés?
Non, absolument. C'est une très bonne question qui revient souvent. C'est complètement indépendant de l'ethnie, de l'éducation. Et même, on va dire, dans les pays, malheureusement, où il y a plus de traumatismes, plus de pauvreté, ce sont des facteurs de risque d'expression de dépression.
Est-ce que les hommes sont plus touchés que les femmes ou est-ce que c'est plus ou moins équilibré?
Plus les femmes que les hommes, on dit à peu près deux femmes pour un homme.
Ouais, et ça s'explique ou c'est parce qu'elles consultent plus aussi peut-être que les hommes qui ont honte, je ne sais pas?
Non, il y a peut-être un sous-diagnostic effectivement, il y a beaucoup d'hypothèses plutôt une prédisposition, on va dire, physiologique effectivement chez la femme à présenter davantage de dépression.
Est-ce qu'on sait s'il y a une part héréditaire, si on a des dépressifs dans la famille, est-ce qu'on a un peu plus de risque d'en faire une que dans une famille où il n'y en a pas du tout?
Oui, absolument. On parle de sur-risque. Alors, on souvent pense à la génétique. Il n'y a pas le gène de la dépression. On parle d'hérédité complexe, mêlant plusieurs vulnérabilités génétiques et des facteurs environnementaux, tels que le stress, les traumatismes, dont on a déjà parlé. Lorsqu'on a un apparenté de premier degré, donc c'est-à-dire des parents, des frères ou des sœurs qui ont une dépression, on a 2 à 4 fois plus de risques de faire une dépression.
Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein,
absolument c'est ça, pas. Il y a plein de facteurs aussi protecteurs et on n'en parle pas suffisamment contre la dépression, tels qu'une bonne éducation, un bon accompagnement, un environnement favorable.
Non, c'est important. Donc il y a des facteurs protecteurs également.
Absolument.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre? Est-ce que c'est une maladie qu'on a plutôt jeune, plutôt dans l'âge plus mûr? Est-ce que d'ailleurs les enfants sont touchés également de ce même type de dépression?
Les enfants sont également touchés, et là ça touche tous les âges, avec des formes et des expressions des fois particulières, variables. La médiane est à peu près à 25 ans,
c'est quand même
une
de l'adulte pathologie jeune, hein, quand même,
de l'adulte jeune, mais les sujets âgés également peuvent souffrir de dépression.
Un mot malgré tout sur la période actuelle, est-ce que vous craignez un boom, une explosion des dépressions avec le contexte Covid, la première puis la deuxième vague?
Alors, on entend beaucoup de choses en ce moment sur ça, effectivement. Il y a deux choses.
Il y a des psychiatres qui montent au créneau, on les entend, qui disent « on a une troisième vague ». Voilà, je ne sais pas ce que vous, en tout cas, pouvez dire de votre expérience.
Alors, de mon expérience et des études, alors, tout d'abord, il y a deux choses. Est-ce que le Covid en lui-même est un facteur de risque de troubles psychiatriques? La réponse, c'est oui. Et il y a une grande étude dans Lancet Psychiatrie qui vient de sortir, là, ce mois-ci, et qui montre globalement que suite au Covid, on a 5,8% de troubles psychiatriques à 3 mois suivant l'infection.
Ouais.
En comparaison, par exemple, à une grippe, on est à 3%. Donc, vous voyez, c'est un sur-risque par rapport à une grippe, mais ce n'est pas non plus une explosion, peut-être. Donc, des fois, les chiffres aident à plus se représenter. Donc, c'est un réel sur-risque. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on n'a pas eu le Covid, mais on parle en population générale, dans ce contexte de stress de Covid, effectivement, les chiffres de santé publique montrent qu'en novembre, on est à 20% de dépression par rapport à 10% en septembre. Donc voilà, donc ça, ce sont les premiers chiffres de santé publique. Il y a encore d'autres chiffres et d'autres données à voir. Mais effectivement, ce qu'on constate en pratique clinique, c'est que c'est quand même un facteur de stress important.
Et cette dépression, ce qu'on entend, c'est que ça touche un peu plus les jeunes que les plus âgés. Est-ce que ça aussi, on constate en pratique?
Alors, dans les données scientifiques que j'ai vues, pour l'instant, je n'ai pas vu de choses spécifiquement sur ça. Probablement que les jeunes, effectivement, sont des populations à risque, malheureusement, particulièrement éprouvées sur le plan
socio-professionnel. Peut-être qu'elles peut-être qu'elles restent en souffrance chez elles de leur côté, et qu'elles attendent que ça déborde, en quelque sorte.
Absolument, absolument.
Et la jeunesse, oui, parce que plus de facs, plus de... Donc c'est peut-être aussi une population qui a été plus impactée que les autres, hein, peut-être.
Absolument, mais je pense que voilà, c'est un facteur de stress qui est important et voilà, qui reste important et où il ne faut pas non plus avoir un discours complètement dramatique sur ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place pour booster les capacités de résilience des individus.
Docteur Geoffroy, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil au GHU, groupe hospitalier universitaire psychiatrie neurosciences. Et on fait le point donc sur la dépression avec vous cet après-midi. À présent, on va passer au diagnostic de cette maladie. Est-ce qu'on la dépiste d'ailleurs ? Est-ce qu'on la diagnostique assez tôt aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on regrette, comme beaucoup, dans beaucoup d'autres maladies, finalement, un retard encore au diagnostic ?
Absolument. Malheureusement, il y a un retard, comme beaucoup de maladies. Mais je crois que la dépression souffre encore plus, va-t-on dire, de ce retard diagnostique, avec un patient sur deux qui ne sera jamais diagnostiqué. Donc,
jamais.
On ne parle même pas de retard.
Ah,
c'est,
oui.
On va passer complètement à
parce
côté.
Parce qu'ils ont honte, c'est tabou, parce que...
Pour plein de raisons, pour le système de soins, pour la stigmatisation, effectivement, pour pas mal de choses, parce qu'on ne connaît pas aussi. Hein, quand on connaît la maladie, lorsqu'on est informé, après cette émission radio, il y a des gens qui vont reconnaître les symptômes de la maladie. Donc, il y a aussi une ignorance. Et lorsque la maladie s'installe, devient chronique et récurrente, là, on sait qu'il y a à peu près 8 ans de retard au diagnostic. Donc c'est quand même énorme et c'est bien au-dessus des autres maladies quand même.
Pour motiver ceux qui nous écoutent, qui se reconnaîtront peut-être, on est d'accord, plus on consulte tôt, plus on a de chances d'en guérir ou pas dans cette maladie aussi ?
Absolument. Plus on consulte tôt, plus on est traité tôt et plus cette dépression va prendre fin rapidement.
Justement, pour vulgariser et donner des outils à des personnes qui auraient peut-être des gens déprimés dans leur entourage, quels sont les signes les plus fréquents, en tout cas ceux qui parlent le plus, pour évoquer une dépression ?
Alors, une dépression s'installe dans le temps, donc il faut au moins 15 jours de symptômes, hein, c'est vraiment ça. On parle de troubles de l'humeur, donc cette tristesse qui va s'installer dans le temps et qui ne réagit plus à l'environnement. On est triste tout le temps, donc ça c'est un symptôme qui est important. Mmh. On a une fatigue qui prend souvent beaucoup de place, qui est envahissante. On a aussi un ralentissement dans tout ce qu'on fait, dans ses activités, avec une diminution de l'énergie. Cette énergie est une notion qui est très très importante. Et l'entourage et le sujet vont se rendre compte de ce qu'on appelle une rupture de fonctionnement. Le sujet ne fonctionne plus comme avant. Le sujet est différent par rapport à son fonctionnement habituel. Et ça, c'est quelque chose qui est observé par l'entourage.
Le sommeil aussi est perturbé, je crois, dans la dépression, peut-être dès le début, ça vous aide à nous le préciser. C'est un signe d'alerte, mais ça veut dire quoi, le sommeil perturbé ? C'est des insomnies, c'est des réveils, c'est au contraire, on dort trop ou plus assez ? C'est quoi, principalement ?
Alors, effectivement, le sommeil, c'est aussi un des points d'appel, vraiment, dans la dépression. Ça fait partie même des critères diagnostiques hein, de la dépression, ce sommeil. 80% ont une plainte du sommeil avant une dépression. Pour certains, ces plaintes du sommeil vont avoir lieu un an avant l'apparition de cette dépression. Donc on a à la fois un signe annonciateur, un signe de crise finalement, mais peut-être aussi un facteur de risque d'évolution vers la dépression. Et au cours d'un épisode, 92% des patients ont des plaintes du sommeil. Et ces plaintes du sommeil, ça peut être de l'insomnie, effectivement, de début nuit, de milieu nuit, de fin nuit. Bon, souvent, le classique, c'est les réveils matinaux précoces. On a même une avance de certains stades de sommeil, comme le sommeil paradoxal. Et on peut avoir à l'inverse l'hypersomnie. Donc on dort trop, on reste au lit et on est fatigué tout le temps.
Parfois, certains événements de la vie font qu'on va être triste, un deuil, un licenciement, ou même j'ai le souvenir d'avoir vu une dame qui a été sur son lieu de travail, elle se rend compte que sa collègue est cas contact et donc elle doit rentrer chez elle. Elle rentre chez elle, elle trouve son mari à la maison avec une autre femme et donc elle consulte car elle est déprimée, elle voulait absolument un traitement antidépresseur parce qu'elle ne dormait plus, ça faisait 24 heures simplement. Elle était triste, elle ne mangeait plus. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ça suffit pour caractériser un épisode dépressif ?
Effectivement, ça ne suffit pas parce que c'est une réaction finalement physiologique, un événement de stress qu'elle a vécu et qui est bien compréhensible. Donc la tristesse fait partie des émotions humaines tout à fait normales. Cela devient anormal et alertant lorsque cette tristesse finalement n'est plus une émotion mais une humeur, c'est-à-dire qu'elle s'installe dans le temps et qu'elle reste le sentiment prédominant avec en plus de cette tristesse tristesse. Vraiment, j'insiste sur cette énergie et ce ralentissement qui apparaissent.
Donc clairement, les gens qui sont juste un peu nostalgiques du temps d'avant, qui sont un peu déprimés ou anxieux de la situation actuelle, c'est pas ça, c'est pas la dépression,
non,
on a bien compris la différence. Les patients dépressifs, justement, aujourd'hui, consultent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est souvent, le plus souvent, un proche qui dit « Allez, va consulter, tu vas pas bien ». Ils viennent de quelle façon ?
Alors, c'est une très bonne question. Les patients viennent parfois d'eux-mêmes lorsque les symptômes s'aggravent, finalement, de la maladie, lorsque des idées suicidaires vont apparaître. Des fois, ce sont les proches, des fois, c'est même le travail qui s'inquiète parce que leur proche, effectivement, n'est plus comme avant et donc devient inquiétant pour les autres. Des fois, c'est par les médias. Et ça, il faut le dire, parce que dans les études, ça ressort. C'est-à-dire une information, et c'est aussi l'objet de ma présence aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir informer et que cette maladie soit davantage connue. Et puis après, il y a d'autres biais aussi possibles.
Qui on voit justement quand on pense être déprimé, le médecin traitant, un psychologue, un psychiatre, souvent les gens ne savent pas trop, ou même honte de voir un psychiatre en pensant qu'il y a une connotation de folie, alors c'est entièrement faux.
Alors, souvent, le psychiatre n'est pas la première personne qu'on va voir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça doit toujours être le psychiatre en première intention. Il faut savoir que 70% des dépressions sont traitées par le médecin généraliste.
Et ça veut faire, hein.
Et ça se passe très bien. Donc, je pense que c'est son médecin généraliste qui doit être le premier interlocuteur. Et le médecin généraliste sera en capacité, évidemment, d'orienter vers un spécialiste en cas de complications, de signes de gravité ou d'autres comorbidités psychiatriques.
Docteur Geoffroy, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à l'APHP. Et donc à présent, on va passer au traitement de la dépression. Alors forcément, qui dit traitement médicamenteux et antidépresseur, non ?
Et oui, plutôt oui. Quand on a vraiment ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, donc qui répond aux critères médicaux d'intensité modérée à sévère, le traitement c'est l'antidépresseur. Il y a plusieurs classes d'antidépresseurs. La seule situation où on peut faire appel à d'autres thérapies, notamment aux psychothérapies, c'est dans les cas des dépressions légères. Ces psychothérapies peuvent être associées aussi aux médicaments en cas de dépression modérée et sévère.
Je reste un tout petit peu encore sur les antidépresseurs. On est d'accord, ça fait partie quand même c'est un des freins à la consultation. Les gens ont très peur qu'on les mette sous antidépresseurs, non ?
Je pense que vous avez raison. C'est un des freins à la consultation. Mais l'objet est d'abord de faire le diagnostic, d'expliquer, d'accompagner, de rassurer, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur les antidépresseurs.
Et souvent, les patients veulent à la place un anxiolytique ou un somnifère. Je suis stressé, donnez-moi un truc pour déstresser. J'ai du mal à dormir, donnez-moi un somnifère. Le traitement, il n'est pas là, même si parfois on en prescrit en attendant que ça fasse effet.
Bien sûr. Et finalement, il y a beaucoup moins d'effets secondaires avec les antidépresseurs qu'avec ces anxiolytiques ou ces somnifères, qu'on va utiliser vraiment que dans les phases très très aiguë pour soulager vraiment en aigu le patient qui ne dort plus du tout,
il faut l'aider,
qui est très très anxieux avec des attaques de panique où vraiment on va essayer de passer un cap aigu, mais très rapidement on cherchera à arrêter ces anxiolytiques et ces somnifères parce que vous le savez, il y a un risque de dépendance, ce qui n'est pas le cas avec les antidépresseurs et qui sont des traitements plutôt boosters justement qui vont redonner au sujet la capacité à aller travailler et à ressentir du plaisir.
Par contre, il faut peut-être dire à nos patients, à ceux qui nous écoutent en tout cas, que les antidépresseurs, c'est pas magique, ça marche pas tout de suite. Hein. Par contre, il faut être un tout petit peu patient. Il y en a qui arrêtent justement parce qu'au bout d'une semaine, ils sentent aucun effet. Il faut attendre un peu.
Oui, on dit qu'il faut attendre environ 15 jours au moins pour commencer à ressentir les effets de ces antidépresseurs. Et surtout, continuer cet antidépresseur et l'arrêter au bout de 4 semaines s'il n'y a eu aucun effet lorsque l'antidépresseur a été prescrit à la bonne posologie.
On peut aussi céder de la luminothérapie. La lumière, ça marche dans la dépression ?
La lumière, ça marche, c'est efficace. Les études scientifiques montrent qu'il y a une taille d'effet qui est comparable aux antidépresseurs en première ligne du traitement de la dépression et que la combinaison des deux, luminothérapie et antidépresseur, est supérieure à antidépresseur seul. Donc c'est une bonne stratégie antidépresseur de première ligne et qui en plus peut se combiner pour avoir davantage d'efficacité.
Comment ça agit sur le cerveau, sur la dépression du coup précisément ?
Alors, ça agit de différentes manières. Tout d'abord, il faut savoir que la renaissance un peu de cette luminothérapie vient des neurosciences. Il y a une quarantaine d'années, on s'est rendu compte que resynchroniser l'horloge biologique par la lumière avait un effet antidépresseur. Donc c'est un des premiers mécanismes d'action. Un autre mécanisme d'action est l'augmentation de la vigilance par la lumière. Il y a une action aussi sur l'homéostasie du sommeil, c'est la pression de sommeil. Et enfin, un dernier effet, il y a deux belles études l'année dernière et il y a 2 ans qui montrent finalement des trajets dans le cerveau direct entre la rétine et des centres de régulation des émotions, et donc avec des effets directs de la lumière sur les zones qui sont responsables de la dépression.
Bon, comment on fait ? Alors, on achète une lampe sur Internet ou en magasin, on fait ça tous les jours, combien de temps avant d'avoir un éventuel effet ?
Alors, c'est mieux d'avoir une prescription qui est médicale avec un psychiatre ou un médecin généraliste qui va accompagner le patient dans cette prescription, parce qu'il y a des contre-indications, on pourra aussi y revenir. Et la luminothérapie s'administre le matin, à heure fixe, pendant 30 minutes, avec des dispositifs qui ont ce qu'on appelle un marquage CE, qui est une sécurité, dit DM pour dispositifs médicaux. Et ces dispositifs sont en vente sur Internet ou en grande surface.
Quelles sont les contre-indications ? Vous disiez qu'il y en avait.
Alors, les contre-indications, c'est surtout tout ce qui est pathologie, donc au niveau des yeux, donc tout ce qui touche la rétine, et en particulier la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et l'autre pathologie qui est la cataracte, plus pour des raisons finalement où, d'accès avec une cataracte, malheureusement la lumière ne va pas atteindre la rétine et donc il n'y aura pas d'efficacité de la luminothérapie.
Vous précisément, vous avez mené des travaux sur ce sujet de la luminothérapie chez les patients dépressifs, il y a eu de très bons résultats, qu'est-ce que vous avez montré et comment vous l'avez pratiqué sur vos patients ? Ça se fait le matin, ils le faisaient à quel moment dans votre étude ?
Alors effectivement, ce qu'on montre, c'est que la luminothérapie donc, peut être faite le matin. Il y a des études qui montrent aussi que c'est efficace à mi-journée, notamment via ses effets sur les centres de régulation des émotions directes. Donc ça ne passe pas que par leur resynchronisation des rythmes, qui est un effet qui est surtout présent le matin. Donc c'est tous les jours. Et ce qui est important de dire, c'est que cette luminothérapie, elle est évidemment efficace dans le trouble affectif saisonnier, c'est la dépression l'hiver, puisqu'on va donner de manière artificielle un signal d'été finalement à l'organisme. Mais cette luminothérapie est aussi efficace dans les dépressions dites non saisonnières. Et ça, c'est un point important à souligner.
Est-ce qu'on peut faire ça en prévention ? On sent un petit peu moins bien pour éviter la dépression ?
Pour nous tous en ce moment qui sentons un peu le spleen là.
Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas suffisamment d'études dans la dépression non saisonnière. Par contre, dans la dépression saisonnière, là, effectivement, lorsque la photopériode diminue, c'est-à-dire lorsque la durée des jours diminue, certains patients ressentent déjà les premiers symptômes de la dépression. Et chez eux, il est intéressant de donner la luminothérapie. Et on sait que là, ça va prévenir de manière efficace la survenue d'une dépression hivernale.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Geoffroy, pour toutes ces explications sur la dépression et ses traitements. Explications